Europe 1.
Europe 1, 10h-11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Olivier, bonjour Michel Cotta, bonjour Robert Namias. Ravi de vous voir dans ce studio.
Bonjour.
Et bonjour à vous deux.
Et oui, un duo d'enfer très connu de... En tout cas, des meilleurs de nos auditeurs, Michel Cotta, journaliste, ancienne présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, directrice de la formation à TF1, directrice générale de France 2, etc., etc. Et Robert Namias, lui aussi, ancien directeur, directeur général adjoint de TF1, chargé de la formation, président, directeur de la rédaction de Nice Matin, des grandes voix d'Europe 1, des personnages formidables. Et ils ont publié un livre qui vient de sortir en librairie, un livre formidable qui vous passionnera, Le Brun et le Rouge. On va en parler dans cette émission, mais on va aussi parler, si Michel Cotta me le permet du moins, de l'actualité. Et de l'actualité, pour commencer, grâce à notre réalisateur Jean-Luc Arblade, toujours là, grâce à Capucine Patouillet qui a préparé l'émission, et grâce à Cantelou.
Allez, on va parler de ce dîner secret entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe à l'Élysée. Bonjour, Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Donc, vous avez dîné avec Édouard Philippe hier. Ça vous a fait quoi?
Écoutez, je peux être honnête avec vous.
Ah bah
ça,
oui,
ça m'a fait ça.
Ah oui, quand même. On est nostalgique. Hein,
écoutez, j'ai comparé avec le nouveau, c'est... Vous savez, c'est comme revoir une ex qui aurait embelli. C'est toujours douloureux. Quand on revoit une ex qui est devenue chômeuse, qui bouffe des chips et qui a pris 40 kilos, on se dit qu'on a bien fait de se barrer. Mais si elle est devenue mannequin pour Victoria's Secret, on se demande si on n'a pas fait une connerie. Voilà, vous dînez avec Sophie Marceau et vous retournez chez Bobonne Yolande Moreau, c'est dur. Attention, ce sont des métaphores, bien sûr.
Oui, bah limite, hein, quand même, vos métaphores. Alors, vous vous êtes dit quoi avec Édouard Philippe?
Écoutez, je lui ai dit, Édouard, on a un problème. Les gens t'aiment trop. Ils ont la nostalgie de toi. Tu leur manques. Résultat, ils détestent mon Castex. Bref, il faut trouver d'urgence une solution, mon Édouard.
C'était donc Emmanuel Macron par Nicolas Cantelou mardi matin sur Europe 1 et hier vendredi, Les Échos a publié le baromètre des Labs dans lequel on constate que Jean Castex est tombé à 28% de cote de confiance. Lorsqu'il a quitté Matignon, Édouard Philippe était à 43%. Et à la même période, il avait aussi perdu, mais nettement moins que... Jean Castex qui lui a succédé, d'où la question que on va poser au trio d'enfer que j'ai sous les yeux. Castex, une erreur de casting. Catherine, vous commencez.
Non, mais c'est quelqu'un qui est en rodage. Hein. D'ailleurs, comment être populaire quand on était inconnu en juillet et qu'on se retrouve en octobre avec cette somme de problèmes qu'il a sur le dos, hein, la crise sanitaire, réussir à trouver le bon chemin entre vaincre le virus et vivre avec, la crise économique, la pauvreté. Donc les Français sont absolument pas séduits par lui. Je crois qu'ils ne le voient pas et ne l'entendent pas.
Oui, remarquez qu'une voiture en rodage, une fois qu'elle est rodée, elle va plus vite. Castex, c'est quand même pas absolument établi.
Elle est toujours en rodage.
Oui, d'accord. Michel Cotta.
Oh non, je pense que pour le rodage, il n'ira jamais plus vite. Il est programmé, comme disait assez bien Mélenchon... ce Premier ministre qui parle à deux à l'heure. Alors, c'est vrai qu'il parle très lentement, mais c'est vrai aussi qu'il paye la deuxième vague et qu'il paye le fait d'avoir été monsieur déconfination.
Déconfinement,
et d'être se trouver face à une deuxième vague.
D'accord. Alors, je vais tant, puisque ni Catherine Ney, ni Michel Cotta n'ont franchement répondu à ma question, erreur de casting ou pas, je vais tenter ma chance avec Robert Namias.
Pas sûr. Il y avait une chanson de Léo Ferret, tout aussi oubliée que la chanson, qui s'appelait « T'as le look coco ». Alors Castex, il n'a pas le look, ça. Il a un autre look. Il a le look des instituteurs avec une blouse grise et une règle entre les mains des années 50, au pire 60, mais même plutôt 50. C'est dire qu'il n'a pas le look. Et c'est dire qu'il n'est pas dans la modernité incontestablement affiché par Édouard Philippe, son prédécesseur. Pour autant, il est là pour faire le boulot. Il n'est pas là pour plaire, pour avoir un charisme de star de cinéma, etc. La question est de savoir s'il va faire le boulot. Et là, de ce point de vue-là, je pense que c'est un peu prématuré. Vous savez, les sondages, il est là depuis 3 mois, il était, je crois, à 40%. Bon, il a beaucoup baissé. Mais la vraie question, elle sera jugée sur ce qui était son job chez Macron d'origine, c'est-à-dire le déconfinement. Et un vague retour, pas un total retour, mais un retour à une certaine vie normale. Et c'est vrai que ce qui paye aussi, d'une certaine manière, c'est pas seulement son look, son accent, etc. C'est le fait que ça s'est quand même pas très très bien passé. Et que, au fond, le patron du déconfinement a manqué, une fois arrivé à Matignon, d'un discours de la méthode qui aurait projeté sur les 3 mois suivants ce qui, éventuellement, il fallait faire.
Voilà, par exemple. Par exemple, sans compter, écoutez, excusez-moi, sans compter quand même l'invraisemblable gaffe sur le Covid, j'ai pas téléchargé le Covid. Je veux dire, quand vous êtes Premier ministre en exercice, que vous expliquez qu'il faut tracer, tester, tracer, isoler, tracer, tracer, et que vous allez faire votre première grande émission politique, c'est le béaba de dire, bon, ben, alors, sur tracer, ouais, ce qu'on va me demander...
Ça prouve qu'il sait pas mentir, alors.
Oui, d'accord, mais ça prouve aussi qu'ils n'ont pas été foutus, lui et ses équipes, juste avant de prévoir le coup et de vite télécharger l'application,
on
franchement.
On est d'accord, il a raté, enfin, quelque part, le déconfinement a été raté, parce en gros, en Italie, il a été réussi, parce qu'en juillet, en août, on a quand même continué à fermer les vannes. Là, en France, on les a ouvertes. Si on me
parle ce que j'adore, c'est quand les commentateurs se plantent. Parce que quand Conte, puisque vous parlez de l'Italie, Michel Conte, on n'en parle pas dans votre livre tellement de l'Italie d'ailleurs, mais c'est néanmoins...
Si, si, si.
Charlotte
excusez-moi, j'ai complètement oublié
de la République,
de Marion Maréchal. J'ai complètement oublié. Donc, quand il était nommé Conte, tout le monde disait un professeur de droit inconsistant, déjà pas tellement sympa pour les professeurs de droit, mais enfin, il y en a qui sont inconsistants. Un professeur de droit inconsistant, une marionnette, etc. Paf, il est devenu premier ministre, président du conseil, très populaire, très efficace. Quand Castex est arrivé, on a dit, quel joli coup, les territoires, réconciliation avec la France d'en bas, et puis ça fait petit. Les commentateurs sont quand même souvent...
C'est le propre du journalisme du quotidien, ça, n'est-ce pas?
Oui. Non, mais il y a aussi un problème avec les territoires. C'est vrai qu'il a été l'homme, on disait, l'homme des territoires complémentaires. Du président. Oui. Et puis, en réalité, qu'est-ce qu'il a fait comme tout le monde? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a imposé quelque chose sur Marseille. Et au fond, on a dit, mais quoi, la concertation? Alors, où est la concertation? Et au fond, de ce point de vue-là, il n'a pas été l'homme des territoires.
Non, non, mais... Il est redevenu. Marseille, hein, excusez-moi, il est redevenu. Parce que se concerter après avoir pris la décision... Non, mais... allez, dans une seconde, Catherine Ney, c'est pas de ma faute si je suis obligé de lancer des trucs que j'ai même pas le droit d'appeler des pubs. On se retrouve dans 2 minutes. Et nous recevons Michel Cotta et Robert Namias qui viennent de publier Le Brun et le Rouge chez Robert Laffont. Un livre que je ne saurais trop vous recommander, qui se lit comme un polar politique avec des personnages où parfois l'on croit voir lui ou elle, et puis parfois on se dit « Ah, mais peut-être que c'est un mélange de X et de Y ». Très, très, très excellente, excellent suspense, je vous le recommande. Et dans ce livre, il y a un personnage important, qui est un personnage de l'ultra-gauche, de la gauche de la gauche, Malingo. Jean-Luc Malingo, non, c'est pas Jean-Luc son prénom, mais...
Georges Malingo.
Georges Malingo. Là, on va entendre un débat entre un fervent de Malingo Mélenchon et le ministre de l'Intérieur. Écoutez, c'était mardi sur LCP.
Je ne m'excuse pas qu'un parti comme le vôtre, qui a dénoncé pendant longtemps l'opium du peuple, en soit désormais lié avec un islamo-gauchisme qui détruit la République. Voilà la réalité, monsieur Corbière. Ce que nous faisons, ce n'est pas simplement manifestement de gêner quelques islamistes radicaux. Mais quand j'entends vos propos et celles du président Mélenchon, je sens qu'on gêne aussi beaucoup de votre corps électoral.
Je signale pour ceux qui se passionnent pour les mots que dans le journal Le Monde, qui va sortir dans quelques heures, il y a un article d'un historien américain qui récuse l'utilisation du terme islamo-gauchiste et qui explique que sinon le premier des islamo-gauchistes c'était Voltaire. Très amusant à lire. Alors, cette querelle-là, dans votre... juste avant d'y revenir et d'avoir des commentaires politiques savants de Catherine Ney, j'ai une petite question littéraire et politique, évidemment. Dans votre livre, le personnage de Malingou, dans lequel, quand même, franchement, on reconnaît Mélenchon, accepte finalement d'être le vice-premier ministre de la présidente de la République, Marion Maréchal Le Pen, non, Charlotte, je ne sais pas quoi. Ça vous semble concevable, pour le bouquin, c'est formidable, hein, mais est-ce que ça vous semble concevable qu'une chose pareille se produise en France?
Je vais vous dire, d'abord, on a beaucoup travaillé sur, à la fois, les discours, les prises de position des uns et des autres, et tout ce qu'on lit dans le livre... c'est évidemment rewrité, réécrit, retravaillé, mais reflète les positions des uns et des autres.
Ça, c'est le premier point. Mais même souvent, comme mes jours, toute l'émission va pas être sur le livre, si vous pouvez aller vite à ma question.
J'allais à la deuxième réponse, qui est, on a aussi beaucoup travaillé sur ce qui s'était passé à l'étranger. Et le problème, en l'occurrence de notre personnage, mais de Mélenchon, si vous voulez, c'est qu'il a un électorat, lui. Lui, il peut, la main sur le cœur, dire « Moi, jamais l'extrême droite, c'est mon opposant absolu, etc. Jamais je ne mangerai de ce pain-là. » Mais son électorat, et il le sait d'ailleurs, son électorat se croise avec celui... vous qui êtes vraiment un grand politologue, vous savez très très bien que... Le Midi Rouge, notamment, est passé assez rapidement, en une vingtaine d'années, d'un communisme qui était viscéral, ancré à l'extrême droite, c'est très clair. Bon, voilà. Et parce que pauvreté, parce que chômage, parce que crise...
Du coup, c'est possible pour les électeurs, puis, d'accord, mais c'est possible aussi pour les dirigeants.
Il y a un moment donné, où, d'abord, dans le personnage, il y a une flatterie. Au fond, c'est quand même, il participe au pouvoir. Et il est persuadé, c'est ça qui est intéressant, il est persuadé qu'il va pouvoir amender, parce qu'il y a quand même beaucoup de points communs dans le programme économique,
et mettre en œuvre sa politique à lui. Oui.
Amender la politique de la
présidente. Mais c'est la conjonction des populismes. C'est la conjonction des populismes qui est toujours possible et dont on parle. Et d'ailleurs, on s'aperçoit bien que dans le vocabulaire même de l'extrême gauche et de l'extrême droite, de temps en temps, il y a des concordances. Par exemple, je ne sais pas moi, quand... Valéran de Saint-Just dit que Mélenchon est un patriote, hein, ou lorsque on dit que Marine Le Pen a un peu d'humanisme en elle. Il y a naturellement une conjonction des populismes qui est le plus dangereux et qu'on ressent quand même formidablement en France aujourd'hui.
Catherine, moi je pense que sur le plan des électeurs, il peut y avoir il y a déjà, ils peuvent s'accentuer des glissements. Je ne crois pas du tout à un accord possible au sommet. Donc, tranché entre la thèse de nos romanciers et mon objection politologique.
Je ne sais pas, mais on voit bien qu'en effet, l'électorat France Insoumise trouve que les peines ne sont pas assez sévères pour les agressions physiques contre les personnes. Ils réclament exactement comme les électeurs du Front National. Ils ne sont pas fascinés du tout par le thème de l'immigration et même... ce qui avait fait perdre beaucoup de voix Jean-Luc Mélenchon dans une présidentielle précédente, c'était son discours de Marseille où il disait « Venez, on vous attend » et tout ça. Et il avait beaucoup chuté, ça lui avait beaucoup nuit. Je ne suis pas sûre que son discours sur la créolisation de la société, il aimerait que vraiment la France soit à l'égal du Brésil, comme c'est pas... Je pense que ça lui fait du mal, parce que son électorat ne suit pas.
Ça se discute, franchement. Parce que pour l'électorat populaire à conquérir, vous avez raison, mais pour préserver son électorat de prof de gauche, pour le dire vite, à eux, ça fait plaisir. Mais vous n'avez pas tranché entre nous. On ne parle pas des électeurs, là. On parle des dirigeants politiques. Est-ce qu'il vous semble possible, concevable, que dans 2 ans, dans 7 ans, le leader de la gauche ou un des grands leaders de la gauche rallie Le Pen, si Le Pen, en l'espèce plutôt Marion Maréchal d'ailleurs, arrivait au pouvoir?
Écoutez, au jour d'aujourd'hui, j'imagine pas. Mais, vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il a quand même une frustration, c'est de ne pas être arrivé au pouvoir. Et ça, bon. Et donc...
De toute façon, et donc, le préalable absolu, c'est que Le Pen soit élu. Le Pen, Marine, ou Le Pen, Marion, devenu maréchal. Est-ce que c'est possible, dans 2022? Réponse, dans 2 minutes.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Avec Michel Cotta et Robert Namias. Alors, je demande à nos invités et à nos auditeurs de fermer les yeux, d'oublier que nous sommes le 10 octobre 2020 et d'imaginer que nous sommes le soir du second tour de 2022. Fermez les yeux et écoutez.
Il est 20h sur Europe 1. Marine Le Pen est élue présidente de la République avec 51% des suffrages exprimés. Je répète, Marine Le Pen est élue présidente de la République.
Alors en vérité, c'était le 18 juillet 2015. Avec Michel Fil, nous avions conçu des émissions de politique fiction. Et là, beaucoup de gens de la rédac d'Europe 1 avaient participé, fait des reportages, etc. Et là, c'était un faux journal de 20h d'Europe 1 par Nicolas Poincaré, qui à l'époque était ici grand reporter. C'est possible ?
Oui. Oui, c'est tout à fait possible. Marine Le Pen, je ne sais pas. En tous les cas, une candidate, d'ailleurs nous avons voulu que ce soit une candidate, qui en l'occurrence n'est pas Marine Le Pen, et qui est une espèce de composite de plusieurs...
C'est plutôt Marion Maréchal,
voilà, mais composite de plusieurs
y courants... Y compris avec son amant italien,
de l'extrême droite, absolument. Oui, bon. Oui, c'est tout à fait possible. Vous savez, on a beaucoup regardé ce qui s'était passé. Au fond, dans les démocraties, je dis bien les démocraties, où l'extrême droite a fait irruption au pouvoir. Il y a deux manières de faire irruption au pouvoir. Soit le coup d'État militaire, mais il faut que l'armée soit très forte.
Europe, ça ne se pratique plus vraiment.
Et ça ne se pratique plus. C'est le Chili, ça peut être l'Espagne avant la guerre, etc. Soit les urnes. Et quand vous regardez bien, alors en Grèce, c'était les colonels, donc ce n'était pas les urnes, mais...
Coup d'État en Grèce. La dernière fois, c'était un coup d'État.
Absolument, c'était une vraie démocratie.
C'est-à-dire Papadopoulos et autres spanditakis.
Je n'aurais pas rappelé que... en Italie, quand même, Mussolini était un socialiste. Je veux dire, il avait glissé, mais il était resté vraiment un socialiste et considéré comme tel par les Italiens au moment où il a été porté au pouvoir. Je ne parle pas, d'ailleurs, on ne fait pas du tout allusion à l'Allemagne, à Hitler, c'est encore plus compliqué. Sauf qu'on peut noter qu'il est quand même arrivé par la voie des élections. Donc, pour vous répondre à votre question, dans un contexte économique très dégradé, une France disloquée, comme elle l'est aujourd'hui, c'est une réalité. Oui, ça peut arriver.
Catherine, vous êtes d'accord avec cette hypothèse ?
Écoutez, il faut que je me mette en accord avec mes arrière-pensées, parce que moi, je pensais que ce n'était pas possible. Et puis, les choses allant comme elles vont, dans quelle situation économique sera la France dans 2 ans ? Je veux dire, on se dit dans le fond, tout peut arriver.
2 ans, 7 ans.
Et puis, hein, il y a l'exploitation des peurs, quand même. On voit bien que l'exploitation systématique des peurs... l'immigration qui sera augmentée par la crise économique, qui sera augmentée par la crise sociale, rend quand même ce genre de choses possible. Moi, je crois qu'il n'y a plus de plafond de verre pour l'extrême droite. Et d'ailleurs...
Mais il y en a peut-être un toujours pour Marine Le Pen.
Il y en a peut-être un, voilà. Voilà. Et c'est ce que j'allais dire. Voilà. Le seul, si on...
C'est pour ça que notre personnage n'est pas Marine Le Pen.
Si on s'éloigne du livre et si on parle de politique, je pense que le mouvement national, le Rassemblement national en ce moment, est dans une très mauvaise phase. Il est divisé. Beaucoup de ses membres disent Marine Le Pen n'y arrivera jamais, y compris le maire de Béziers. Donc, en ce moment, il y a une... évolution particulière du Rassemblement national, dont je ne sais pas ce que ça donnera.
Vous êtes d'accord peut-être avec moi que dans notre microcosme de la média politique, on a des vagues conjoncturelles comme ça. C'est-à-dire on a un moment où il n'y a que Barouin, il n'y a que Bertrand, il n'y a que Macron est foutu, Macron est revenu.
C'est notre limite d'ailleurs. C'est la limite
Philippe est faiblard, Édouard Philippe est exceptionnel, Marine Le Pen va gagner, Marine Le Pen est out. Hein. On fonctionne comme ça.
Oui, vous avez tout à fait raison. La vérité,
et
c'est...
Et en plus, où les gens se répètent les uns les
autres.
C'est
pour ça que nous avons fait un roman et qui ne prétend pas dire, c'est pas un livre ni politique ni d'histoire, c'est un thriller à caractère politique. Ça peut se passer dans X années, ça peut jamais se passer. Le but, c'est, après, nous essayons dans le roman de dire ce qui se passerait. Oui. Moi, je me permets de lire une phrase, quatre lignes. C'est pas les miennes, ni celles de Michel. Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom. Il rampe. Il flotte. Quand il montre le bout de son nez, on dit « C'est lui ? Vous croyez ?» Oh, il ne faut rien exagérer. Et puis un jour, on le prend dans la gueule et il est trop tard pour l'expulser. Nous avons mis cette phrase en exergue de notre livre. Elle est de François Giraud.
Mais alors, franchement, là, si vous allez me faire défendre le Rassemblement National, ce qui est un comble, mais au moins ça va peut-être tempérer un peu les explosions de fureur sur les réseaux sociaux. Vous considérez que Marine ou Marion, ce sont des fascistes?
Non, c'est d'ailleurs dans le livre, ça n'apparaît. Mais parce que précisément, si vous avez lu le livre, le livre, c'est le cheminement inévitable qui se produit. Par exemple, ils gouvernent avec l'extrême gauche, ils ont une politique au contraire très sociale au début, et je ne pense pas que ceux qui sont élus sont vraiment des fascistes. Simplement, travailler de l'intérieur, l'extrême gauche apparaît finalement comme l'idiot utile, et puis on a toujours plus à droite que l'extrême droite.
Toujours prévoir le pire pour espérer s'approcher du meilleur. Tel est le précepte implicite de Robert Namias et Michel Cotta. Mais en attendant, il n'y a quand même pas que l'extrême droite. On ne va quand même pas parler que de ça. Il y a aussi un phénomène nouveau cette semaine dans l'univers politique, dans le feuilleton de la présidentielle qu'on a commencé. Et cette nouveauté, laquelle, vous le saurez dans 2 minutes.
Europe 1, Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et nous recevons Michel Cotta et Robert Namias, des grandes voix, des grands journalistes, romanciers aussi, qui publient leur deuxième roman politique, thriller. Et alors, il y a pas mal de points communs, notamment entre Michel et Catherine. Vous savez, sont des journalistes stars, sont des journalistes politiques.
En fait, pas trop non plus.
Oui. Pourquoi? Puis ça peut vous inspirer un jour
surtout,
un retour.
Non, mais c'est surtout qui s'adorent depuis des années.
Voilà, qui s'adorent, etc. qui se sont connus, sauf erreur de ma part, à l'Express, dans la grande aventure de l'Express. Mais il y a un autre point commun. C'est qu'elles ont lu Stendhal. Et que donc Stendhal ayant écrit Le Rouge et le Noir, quand Catherine Ney a écrit son deuxième livre essai politique, elle l'a appelé Le Noir et le Rouge. Et Namias et Cotta appellent leur bouquin pas Le Rouge et le Brun, mais Le Brun et le Rouge. Un point commun de plus, merci Stendhal. Et ben Stendhal, je ne sais pas quel personnage de Stendhal j'aurais pu évoquer pour Barouin, mais je redis, mais c'est quand même peut-être la dernière fois que je vais le dire, puisque Catherine Ney en a par-dessus la tête que je lui fasse des compliments, c'est bizarre. La loi Catherine Ney que nous avions exposée dès avant l'été. La loi Catherine Ney, je signale qu'avant l'été, quand tout le monde disait « ça va être Barouin, tout le monde veut Barouin », elle nous avait dit sur cette antenne, vous pouvez retrouver dans les archives, ce ne sera pas Barouin, parce qu'il lui manque quelque chose d'indispensable pour être candidat et a fortiori pour être élu, le désir. Le désir du pouvoir, le désir d'être élu président. Et ben voilà, c'est fait. Catherine a vu sa loi vérifiée. Et du coup, écoutez Bretaillot.
Vous l'avez entendu, c'était, je crois, il y a 8 jours la semaine dernière, au bureau politique de LR. J'ai compris, il l'a pratiquement annoncé d'ailleurs, qu'il ne serait pas candidat, puisque sa phrase était de dire « j'indiquerai à Bruno Retailleau en on ce que chacun sait en off ». Donc j'ai tiré comme conclusion de cette phrase que c'était un renoncement.
Alors déjà, donc Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, et c'était mercredi sur France Inter. Alors déjà, du point de vue médiapolitique, cette façon de faire, c'est très rare que quelqu'un, enfin, c'est pas si fréquent, on va dire plutôt, que quelqu'un soit désiré, pour être candidat. Ça arrive parfois dans l'histoire, mais regardez aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça se précipite pour « s'il vous plaît, à gauche, Anne Hidalgo, je vous en supplie, soyez notre candidate ». On ne peut pas dire qu'à droite, tout le monde dit « je t'en supplie, Xavier, sois notre candidat ». Bon.
Non, mais il y a un objet du désir qui s'appelle Édouard Philippe.
Mais oui, et qui ne pourra pas y aller en 2022, je le dis tout de suite à tous les auditeurs. Le seul pronostic sûr, c'est que si Macron y va, Édouard Philippe ne sera pas candidat contre Macron et qu'il est hautement probable que Macron y aille. Revenons à notre propos. Ça s'est produit, la dernière fois que ça s'est produit dans l'histoire de notre pays, de façon flagrante, c'était pour Jacques Delors en 1995. Il avait des sondages inouïs, tout le monde à gauche, y compris les plus à gauche du PS, voulait que ce soit lui. Il était donné vraiment comme tapant Balladur, on ne peut pas faire mieux, et Chirac, la question ne se posait même pas. Il a renoncé. Mais son renoncement, il en a fait un spectacle médiapolitique de première bourre par une émission avec Anne Sinclair qui s'appelait à l'époque 7 sur 7. Et là, Barouin, il dit même rien. Il fait savoir qu'il a dit « ah » et que le « on » va devenir un « off world ». J'ai jamais vu ça. Pourquoi ? Comment on explique ce refus de médiatiser son renoncement ?
Parce que c'est difficile de médiatiser un renoncement quand on n'est pas justement souhaité par tout le monde. Il y a beaucoup d'autres candidats. Il était avancé. Son nom avait été avancé une première fois par Sarkozy. Mais enfin, depuis longtemps... On savait que c'était pas avec enthousiasme que François Barouin avait accepté ça.
Moi, je pense, Michel Cotta, qu'il a quand même tort. Je pense qu'il aurait dû faire une grande émission politique, qu'il aurait dû expliquer pourquoi. Laissez-moi terminer ma phrase, si vous voulez bien. Et qu'il aurait dû se confier une mission en disant « Mais je veux que ce pays connaisse l'alternance. Je vais aider à mon parti et ceux qui s'y reconnaissent pour trouver une solution commune. » Et là, on serait dit, quel grand seigneur.
Oui, mais on ne peut pas comparer Delors, la situation de Delors telle qu'elle était en 1995, où vraiment, on avait l'impression qu'il y avait un assentiment total, global, qui allait de la gauche ou de la droite à la droite de la gauche. On avait l'impression, Delors s'était fait lui-même un personnage.
Non, d'accord, mais donc vous considérez que Barouin a raison voulu se faire un personnage. Se retirer sans se retirer. Mais, Catherine.
Moi, je pense qu'il aurait dû le dire plus tôt, parce que la grande caractéristique de François Barouin, pourquoi plaisait-il ? D'abord parce qu'il a une voix ensorcelante et un bon physique. On se disait, tiens, il ressemble à un chef, quoi. Donc, mais lui, il n'en a jamais eu envie.
Oui.
On lui disait, mais tu vas le dire ? Quand allez-vous le dire ? Tout le monde lui posait la question. Il disait, ah ben j'attends, c'était jamais le bon moment. Et là, la façon dont il part en catimini, moi, je trouve que ça manque un peu de panache, vous voyez ?
D'accord, on est pleinement d'accord, ça manque un peu de panache.
Et puis surtout, et ça rend les autres assez ridicules, quand même, parce que tous ceux qui attendaient...
C'est le brouillard, sacré brouillard. Alors, on va essayer de percer quelque horizon derrière cette nappe épaisse sur la présidentielle dans 2 minutes.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Oui, avec Michel Cotta et Robert Namias. Le problème de ces pauses, c'est que souvent nos invités, et même Catherine pendant ces temps-là, disent des choses passionnantes. Mais il n'y a pas de raison que les auditeurs ne les connaissent pas. Alors, Catherine, vous nous avez dit à quoi vous faisait penser François Barouin. C'était à quoi ?
Non, mais j'avais dit qu'il a une voix ensorcelante, et l'écouter, on avait l'impression, vous savez, c'était agréable comme boire une bonne tasse de thé bien chaude un soir d'hiver, voilà, ça passait comme ça.
Vous voulez pas priver nos auditeurs de la tasse de thé chaud un soir de pluie et d'hiver. Et vous, Robert Namias, Barouin, vous trouvez qu'il est très surfait, si j'ai bien compris ?
Oui, alors effectivement, j'étais content de ne pas donner la parole. Donc je la prends, parce que je réponds, évidemment. D'autant plus que c'est vraiment quelqu'un que tout le monde connaît bien, qui est absolument charmant, etc. Il reste que j'ai toujours trouvé depuis 30 ans qu'il faisait la politique par effraction, en quelque sorte. Imposée quand même par Chirac, il faut bien coucouner par Chirac, ses premiers postes, et puis bon, très bien. Et puis finalement, sans jamais montrer effectivement le moindre désir pour ce qu'il faisait. Et quand je l'entends, certes, Catherine, il a une très belle voix, très grave, encore qu'il y ait des voix graves qui endorment. Mais en plus, vous savez, c'est ce qu'on appelait dans le temps un filet d'eau tiède. C'est pas très gentil. Et s'il m'entend, je le salue. Mais bon, voilà, c'est comme ça, je le pense et puis je le dis.
Tasse de thé chaude un soir de pluie, filet d'eau tiède. Eh ben dis donc, ça y va. Pendant ce temps-là, je parlais du brouillard. Alors, le lendemain de notre émission de la semaine dernière... Le journal du dimanche a publié onze sondages. Ils ont sondé, enfin un qui sondait 11 hypothèses de présidentielle. On ne va pas vous raconter tout ce qu'il en sort, parce que de toute façon, c'est pas très très... C'est surtout pas à prendre au pied de la lettre. Deux choses me frappent, puisque cette émission parle du média politique, dans les commentaires que j'en ai entendus ici et là. La première, c'est que c'était mauvais pour tout le monde, sauf pour Macron et Le Pen. Moi, je trouve que c'est pas du tout mauvais pour Xavier Bertrand d'avoir une base à 16%, alors qu'il est même pas candidat dans une des hypothèses. Que donc, on se trompe, c'est mauvais pour Anne Hidalgo, c'est mauvais pour d'autres, c'est mauvais pour Jadot, c'est-à-dire qu'on voit qu'eux, ils ont une base de départ vraiment très faible. Mais Bertrand, c'est pas le cas. Mais surtout, surtout, ce que je trouve le plus absurde dans les commentaires, c'est de déduire « Donc, le duel Macron-Le Pen est installé. Si j'avais, dans le fond, un seul risque à prendre, je prendrais volontiers le pari que nous n'aurons pas un second tour Macron-Le Pen. Parce que les Français ne veulent pas d'un second tour Macron-Le Pen, et que, sauf en avril 2002, où ça a été par surprise, les Français ont toujours su, l'électorat a toujours su, à un moment donné, c'est presque magique d'ailleurs, fabriquer le second tour qu'il voulait. Il ne veut pas de celui-là, donc soit quelqu'un arrivera à sortir Le Pen, par exemple un candidat de droite, en montrant que lui pourrait battre Macron, par exemple, soit quelqu'un arrivera à sortir Macron, mais je dis, nous n'aurons pas un second tour Macron-Le Pen, et si je suis démenti, j'espère que la direction oubliera pour ne pas me virer, et si c'est confirmé, qu'on repassera le pronostic.
Je partage absolument cet avis. D'abord, c'est dans l'histoire de la 5e, c'est exactement ce que vous avez dit, il ne s'est jamais passé à un an et demi de la présidentielle, il ne s'est jamais passé ce qui était prévu 18 mois auparavant. Mais surtout, moi je pense que il y a un problème Marine Le Pen. Il y a un vrai problème personnel Marine Le Pen, quoi qu'elle fasse, peut changer de coiffure, mincir, etc. Il y a un problème, c'est le débat entre les deux tours de 2017. Et c'est l'incompétence. Et donc, par contre, dire qu'il n'y aura pas de duel Macron-Marine Le Pen, moi je suis complètement d'accord avec vous. Dire qu'il n'y aura pas un duel entre Macron et une figure de l'extrême droite, droite dure, je ne sais pas laquelle. Hein. Pas
le général de Villiers, par exemple.
Oui, bah, je ne sais pas laquelle, mais en tous les cas.
Bernard, de Villiers.
Voilà, et qui soit suffisamment, pour le coup, on parlait de l'absence de charisme de Castex, suffisamment charismatique pour entraîner, alors effectivement, on peut se trouver dans une situation plus compliquée.
On est
peut-être
d'accord,
plus,
Robert Lagasse,
peut-être
mais
plus
moi,
proche
je
que celle de notre roman.
Hein. Je n'ai écarté que la répétition stricte.
Oui, c'est vrai que les choses ne se passent jamais comme on l'imagine. Par conséquent, nous l'imaginons. Nous imaginons effectivement la possibilité pour quelqu'un d'extrême droite d'être élu sans
c'est
dire...
C'est plutôt en 27, votre...
En 27,
en 25, oui, enfin bon.
En 25, parce que...
Oui, voilà. On n'a pas dit ça en 22. Mais puisque vous posez la question aujourd'hui, moi je trouve que ces sondages sont quand même... des sondages à 11 personnes, à 12 personnes, sans qu'on sache exactement, je trouve ça... aberrant de s'y soumettre sans élever une protestation parce que si c'est pas une primaire non plus l'élection présidentielle si toutes les primaires se situent au moment des présidentielles là on est quand même face à un surplus.
Moi, je trouve que c'est dépenser de l'argent pour rien.
D'accord. Eh bien, ils vont être contents à l'étage au-dessus, journal du dimanche. Hervé Gattegno, vous n'êtes pas obligé d'écouter l'émission. Et alors, nous sommes à quoi de l'élection présidentielle ?
18 mois, 13 18 mois. Mois. Quasiment jour
okay,
pour jour.
18 mois. Nous sommes à moins d'un mois de l'élection américaine. Nous sommes à moins d'un mois de l'élection américaine. Et pourtant, rien n'est sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Un nombre de trucs, mais on va attirer l'accent, appuyer sur un élément médiapolitique de la semaine dans l'élection américaine, dans deux minutes, après la dernière pause.
Europe 1, Médiapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Michel Cotta et Robert Lamias, auteurs du roman politique Le Brun et le Rouge, et c'est pas Trump-Biden dont il s'agit, mais ça aurait pu. Alice Baudry, directrice de la communication et du marketing de l'Institut Montaigne sur Rhône, veille pour nous les médias internationaux et nous choisit toujours une petite perle. Cette semaine, Trump boycotte le deuxième débat présidentiel. C'est un article du Financial Times, le très très grand quotidien britannique qui a ce slogan publicitaire que j'adore. Putain, si les pubs pouvaient être aussi brèves. No FT, no comment. Si tu n'as pas lu le journal, tu ne commentes rien. Bref. Un article du Financial Times qui revient sur le refus clair et net de Trump de participer au prochain débat. C'était jeudi, lors d'une interview télévisée avec Fox Business Network, qu'il a dit qu'il décidait de boycotter ce deuxième débat parce que les organisateurs avaient décidé de le tenir en ligne pour des raisons sanitaires compte tenu de sa maladie, Covid. Je ne vais pas perdre mon temps dans un débat virtuel. Ce n'est pas le but du débat. Vous vous asseyez derrière un ordinateur et faites un débat, c'est ridicule. Et puis, ils vous coupent quand ils veulent. Ce sont les mots du président, plus que méfiant. Cette décision intervient pourtant au cours des, l'une des semaines les plus turbulentes de sa présidence, et alors que les sondages le montraient encore derrière son rival démocrate Joe Biden, à 26 jours des élections. Le Financial Times s'étonne donc un peu. Traditionnellement, les candidats qui sont en retard dans les sondages sont absolument désireux de débattre, parce que cela leur donne une opportunité télévisée nationale pour changer le cours des choses. Mais là, Trump est en rejet. Un choix risqué, estime le FT. Alors, dans les deux minutes qui nous restent, on va demander à nos trois merveilleux partenaires si Trump va d'erreur en erreur, et si celle-ci n'en est pas une de plus. Catherine, vous commencez.
Moi, je me suis dit, pour qu'il renonce à un débat, même virtuel, avec toutes les raisons qu'il donne, c'était pas qu'il était peut-être encore plus malade qu'on ne le dit, qu'il avait besoin de se reposer. Voilà. Moi, je me suis dit que c'était peut-être ça.
Michel Cotta.
Moi, je me suis dit que c'est quand même un type qui a du coffre, que ça s'est vu, que résister comme ça au Covid et en faire un élément, voilà, je suis le plus fort, ça, c'était déjà
incroyable.
Et refuser un débat par ordinateur interposé, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il se dit, au fond, ce que j'ai de mieux, c'est mon personnage. Et si mon personnage est derrière un écran, c'est pas la même chose.
Robert Namias, vite.
Oui, tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'il a eu le sentiment vraisemblablement politique qu'il n'avait rien à gagner à ce débat parce que, au fond, d'abord, le premier débat avait tellement été exécrable qu'on ne voit pas très bien derrière des écrans. Évidemment, ça aurait été beaucoup plus calme, mais on ne voit pas très bien ce que ça pouvait apporter de plus. Moi, je pense que les dés sont en train de rouler là maintenant. Ils ont été jetés et ils sont en train de rouler.
Et ils roulent où ?
Et ils roulent vers une incertitude qui pourrait finir par faire battre Trump, quand même.
Et ben moi, je pense qu'ils roulent nettement vers Biden, parce que je pense que, d'abord, la catastrophe pour Trump, c'est d'avoir raté le premier débat. Et franchement, alors qu'il avait gagné, contrairement à ce qu'on croit, ces débats contre Clinton, là, ça lui a beaucoup nui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il renonce à celui-ci. Et que du coup... chez les indécis, c'est ce qui compte, les indépendants et indécis, eh ben, ils préféreront, il y en a plus qui voudront voter contre Trump que voter contre Biden. Et comme c'est le vote contre qui l'emporte, je prends mon risque, cette fois, ce sera Biden. Allez, pour nous égayer un peu, Jean-Luc Arblade nous a trouvé une très belle chanson pour demain, justement, mais où on peut espérer quand même, hein, derrière le brouillard, ou pire, voir quelques rayons de soleil. C'est une chanson de 1992, de Georges Moustaki, le grand Georges Moustaki.
Demain, nous n'aurons plus peur de voir se lever le jour. Demain, ce sera moins lourd, mon amour, si tu pleures. Au soleil de l'été, je sécherai tes larmes. Demain, nous n'aurons plus faim. La guerre sera finie. La terre offrira ses fruits, nous ferons un festin. Pour oublier la fureur et le bruit des armes. Le ciel est sans nuages, après la nuit d'orage, la cloche de l'église annonce un mariage. Un prisonnier confie son âme à son gardien. Oublié par l'histoire, il meurt au quotidien. C'est un jour du mois d'août, pareil à tous les jours, avec des cris joyeux et des chagrins d'amour. Et la guerre est ailleurs, si proche et si lointaine. L'espérance est fragile, elle existe quand même. Demain, nous n'aurons plus faim. La guerre sera finie, La terre offrira ses fruits, nous ferons un festin pour oublier la fureur et le bruit des armes. Demain, nous n'aurons plus peur de voir se lever le jour. Demain, ce sera moins lourd, mon amour. Pourquoi tu pleures? Nagasaki, 9 août 1945, 11h08.
Magnifique chanson de Moustaki. Merci à Michel Cotta et à Robert Namias d'être venus.
Merci à vous.
Merci vraiment. À vous, vraiment.
Merci à Catherine d'être toujours là. Merci à Jean-Luc Arblade d'avoir choisi la chanson, réalisé l'émission. Merci à Capucine Patouillet. Et la politique, ça fait longtemps que la politique n'est plus un fromage, mais source au contraire de difficultés. Et là, vous allez passer de la politique au fromage grâce à l'ami Mariotte. Salut, Laurent.